Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
On se retrouve avec nos deux experts du jour, Leonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement et directeur de Limo. On était parti sur un passage en revue de toutes les mesures de la loi pouvoir d'achat. Stéphane Van Nuffel, vous vouliez vous intéresser au plafonnement des loyers.
Oui, en fait, c'est un peu caricatural et c'était pour être un peu provocateur, mais on est là pour débattre. Typiquement, dans le conseil que je fais au quotidien auprès de mes clients, il y a un actif que les Français aiment beaucoup, c'est l'immobilier, c'est pour ça que j'en parle là. Et on a toujours cette tendance à dire que c'est un actif qui est très résilient face à l'inflation. Puisque s'il y a inflation, un propriétaire locatif immobilier, il pourra impacter légalement et logiquement l'inflation sur les loyers qu'il perçoit. Ouais. Donc son propre pouvoir d'achat, pour lui, ne pas subir l'inflation si, par exemple, comme beaucoup de Français, puisque c'est le placement préféré des Français, avaient décidé de faire leur retraite en bénéficiant de rentes locatives. Voilà. Et bien là, typiquement, on se retrouve dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la complexité de prendre des décisions comme celle de cette loi sur le pouvoir d'achat. C'est que, évidemment, l'État a décidé aussi d'impacter les locataires en plafonnant la hausse des loyers à 3,5 pour qu'elle ne reflète pas mécaniquement l'inflation et que ça ne soit pas trop lourd à porter pour le locataire. Et donc, ça va donc être lourd à porter pour le propriétaire. Et donc,
Attendez. Moi, je vous dis franchement, j'étais très surpris. Je pensais que les associations de propriétaires allaient monter au créneau, allaient hurler. Et j'étais très surpris quand même de leur modération.
D'abord, le...
disant que c'était...
Le plafonnement, finalement... le plafonnement de la hausse, c'était à 3,5.
Le plafonnement de hausse,
si le plafonnement était à... Si le plafonnement de hausse,
oui,
c'était
mais
à 2...
C'est pour ça que je les ai trouvés. Grosso modo, le son de cloche, c'était... C'est un partage raisonnable de l'effort.
Voilà. Je trouve donc on revient typiquement dans ce qu'on...
Non, mais c'est plutôt un travail qui a été finement exécuté. Et je pense aussi qu'il faut rendre hommage à Bruno Le Maire qui, dans ses négociations, trouve des points d'équilibre.
C'est le même principe que ce dont on parlait avec Total. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simple. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que d'un côté, le principe part bien. On se dit, il faudrait plafonner la hausse parce que si la hausse des loyers est trop lourde, une fois de plus, les Français, et en particulier les plus modestes locataires, non propriétaires, toute l'imagerie qu'on a, vont subir. Et de l'autre côté, vous avez des propriétaires qui peuvent aussi, des propriétaires modestes, entre guillemets, qui n'ont pas forcément les moyens de ne pas impacter. Ouais. Et là, comme l'a dit Leonidas, ça n'est pas un gel des loyers, donc forcément l'impact va quand même être, et puis on est à 3,5 et pas simplement à 2. Donc je trouve que l'équilibre est le bon équilibre, mais je voulais juste en parler en disant c'est typiquement encore un exemple où vous choisissez quel camp, et c'est là où je suis d'accord, le ministre de l'économie a su ménager la chèvre et le chou, si je peux m'exprimer ainsi.
Ouais. Sur en tous les cas cette notion de trouver le bon équilibre, il y a à l'évidence quand même la nécessité pour l'État de cesser de considérer que les entreprises sont uniquement des acteurs de la dépense énergétique, c'est aussi des porteurs de solutions, c'est ce que l'on essaye de mettre en avant sur cette plateforme Entrepreneurs pour la République, sur tous les problèmes.
Alors c'est quoi les solutions pour les...
Écoutez, je vais vous donner ces solutions, vous savez, c'est des entreprises que je connais pas bien en détail, puisqu'elle propose des solutions sur la plateforme, donc avec tous les aléas de mes souvenirs de leur nom, mais je vais en citer trois, parce que je trouve ça très emblématique. Il y en a une que j'identifie bien, c'est une solution qui s'appelle Garotech. Il s'agit d'injecter l'ozone dans l'eau qui permet de nettoyer le linge dans les laveries industrielles, donc vous n'avez plus besoin de chauffer l'eau. vous avez des cycles qui sont plus courts, et l'appareil qui permet d'injecter l'ozone dans l'eau est amorti dès le premier mois grâce aux économies d'énergie.
Ah ouais.
Ça économise du CO2, ça économise du gaz et de l'électricité, ça a déjà équipé 500 laveries industrielles, et ça peut potentiellement équiper des milliers de laveries industrielles en France et en Europe. Je sais pas si vous imaginez la quantité d'énergie que l'on peut économiser avec une solution comme celle-là. Mais l'État devrait se tourner vers les entreprises en disant, est-ce que vous avez d'autres solutions ? Il y a, vous le savez...
Mais ça, c'est de l'innovation.
Mais c'est de l'innovation essentielle.
Non, mais d'accord.
N'oublions pas que c'est la première mission d'une entreprise, c'est d'innover
pour trouver des solutions. Là, vous parlez d'entreprises qui inventent des nouveaux systèmes pour, effectivement, baisser la consommation. Mais on voit bien que l'effort qui est demandé, c'est à toutes les entreprises.
Pardonnez-moi, Emmanuel.
Et dans leur vie au quotidien, ce que je veux dire, c'est comment on fait pour que nos voitures consomment moins
de carburant. Mais vous avez raison.
Comment est-ce qu'on baisse la température dans les bureaux,
Emmanuel, de combien, etc. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que si on veut des réponses efficaces à ce sujet, meilleure manière, ce n'est pas de se tourner vers des administrations pour inventer une nouvelle loi, une nouvelle circulaire, c'est de se tourner vers les entreprises en se disant, est-ce que vous avez des solutions ? Et vous trouverez des entreprises qui ont des équipements sur tous les systèmes de chauffage et d'énergie des entreprises pour faire baisser leur consommation énergétique de 10, 15, 20%. Vous avez notamment, ça me revient à l'esprit, des appareils qui permettent d'arrêter le chauffage 10 minutes par heure, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Ça ne fait pas baisser la température générale, sauf que 10 minutes par heure, c'est 15% d'économie sur la journée. Eh bien, vous avez le résultat qui est 15% d'économie d'énergie. Mais des solutions comme celle-là, c'est quand même mieux que de commencer à réfléchir à l'amende que l'on va mettre sur les entreprises qui n'atteindraient pas leurs objectifs. Sur la question des lumières et de la publicité lumineuse, vous avez, j'ai découvert ça sur Entrepreneur pour la République, une solution qui est la lumière qui ne fait pas de halo. C'est quasiment un peu que de la lumière phosphorescente. Elle consomme quasiment pas d'énergie. Voilà des solutions qui permettent également de continuer à avoir des enseignes lumineuses en utilisant quasiment plus d'énergie pour la faire fonctionner. Tout ça, c'est à la portée de nos gouvernants, des collectivités locales, et c'est quand même un peu dommage qu'au lieu de mobiliser les forces de la nation, on se dise il va falloir que l'on impose à la nation d'obéir à l'injonction de l'État sous menace de sanctions et menace d'amende. Il est temps de comprendre que nous sommes tous des partenaires sur le même bateau et de transformer un peu cette vision d'une tutelle de la nation sous l'autorité de l'État. C'est vraiment temps que l'on rentre dans le 21e siècle.
Oui.
Vous savez, c'est très important.
D'accord, mais en même temps, on nous dit,
c'est une autre manière de faire de la politique, Emmanuel Lechypre.
Oui, mais il suffit de baisser la température de 1 degré dans les bâtiments, ça fait, ça fait 7%
des... Ça se fait déjà.
Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on a l'impression que finalement, en gros, on vit comme si,
Non, mais je vais résumer.
L'énergie était gratuite.
Emmanuel, c'est résumé et ça va vous faire sourire, mais c'est pas Versailles ici. Le publicitaire qui a inventé ça, c'est génial, parce que en effet, moi je suis des fins des années 70, jamais de la vie, aujourd'hui je passe ma journée avec les trois que j'ai à la maison à faire gaffe, il y a le téléphone qui est ceci, la console est restée allumée, la lumière dans la salle de bain, vous rentrez du boulot le soir, et des fois il y a le Kajibi, parce qu'il a pris son vélo, a été allumé toute la journée, mais c'est pas grave. Oui, mais à l'époque, nous, c'était pas du tout le cas. On se faisait couper le genou. Et ben, en fait, c'est bien résumé. C'est pas Versailles ici. C'est marrant. Mais voilà, on est typiquement là-dedans. Ouais. Et en fait, cette pédagogie, je partage ce que dit Léonidas pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Il y a, en revanche, beaucoup de gens qui le font déjà. Et évidemment, ouvrir peut-être des espaces de communication, comme celui de Léonidas sur la partie professionnelle, où on peut comme ça avoir des idées, les partager, les faire tourner. Moi, je trouve que ce serait hyper intéressant. Et moi, dans les toutes petites entreprises que je dirige, ça fait longtemps que sur l'extraction des mégots, sur les bouteilles de plastique, on a mis plein de trucs en place. On n'avait pas besoin d'attendre qu'il y ait une surinflation ou un problème avec le climat. C'est aussi que vous donnez du sens pour vous et pour vos collaborateurs à la vie en communauté dans les bureaux.
Et c'est une mesure d'économie aussi. C'est l'économie d'énergie, c'est aussi l'économie de votre gestion.
Sourire, pour vous faire sourire, on a choisi des bureaux à Bordeaux dernièrement, neuf, dans lesquels on a intégré en janvier. On était tout fiers de savoir qu'ils avaient un système d'autorégulation de chauffage et de clim qui se coupe selon, etc. etc. Bon, là, dernièrement, par exemple, la clim qui se coupe la nuit et qui ne redémarre que le matin, quand le matin il fait 42 degrés comme on a eu, la clim, elle ne rattrape pas le retard. Donc les bureaux, bah, il fait trop chaud, donc on laisse tout le monde en télétravail.
Ah oui,
faire sourire, Emmanuel, mais c'est deux jours dans l'année.
Vous retrouvez la température au bout de combien de temps?
Bah ça dépend, mais normalement une température logique.
Ah ouais.
Le truc se met, je vous tiens une bêtise, le truc se met en route à 6h45. Les premiers collaborateurs arrivent entre 8h45 et 9h. Vous avez largement le temps de redescendre une température. Bah ouais. Vous ouvrez un peu les fenêtres s'il faut juste faire rentrer le frais du matin, ce qui serait logique. Bon, là quand il fait 42, vous ne rattrapez jamais le retard. Et l'hiver, si vous avez un moins 12, vous n'aurez pas ce système-là. Mais il faut se préparer à ça. Et c'est là où la pédagogie, c'est pas forcément mes grands amis, mais des Allemands, des Hollandais, etc., qui subissent plein pot l'inflation, qui subissent plein pot les dépenses, etc. Et plus intelligente, parce que tout de suite ils préparent à une situation pas pire, mais à une situation plus difficile, qui donc passera mieux puisqu'elle ne sera jamais aussi difficile. Nous c'est l'inverse, on est habitué à ne plus éteindre la lumière, donc à partir du moment où on commence à nous dire qu'il va peut-être falloir le faire le jour où on n'aura plus le choix, c'est pas ça, c'est qu'en fait ils couperont l'électricité parce qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde et on ne sera pas habitué à gérer. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sera pas habitué à gérer notre temps de lumière. Ben, je trouve que c'est un peu dommage.
Messieurs, on va se tourner vers la rentrée. Et notamment, quand même, on nous dit, OK, la situation financière des entreprises est toujours bonne, etc. Il y a quand même quelques signaux qui commencent à s'allumer. Quand vous voyez, par exemple, le pincement des marges parce que les frais de fonctionnement pour toutes les entreprises, coût d'approvisionnement en hausse, coût de l'énergie en hausse, des clients qui ne payent pas toujours dans les délais, etc. Rajouter à ça les remboursements de PGE, puisqu'il faut rappeler que à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de report possible pour rembourser son PGE. Léonidas Kalogeropoulos, comment vous sentez cette rentrée pour les entreprises? Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de défaillance?
Non, je sens une très grande vigilance.
Ouais.
Mais je ne sens pas une baisse de la créativité entrepreneuriale et de l'esprit de conquête, du tout. Je trouve qu'il y a énormément d'innovation, énormément de projets, énormément de start-up. Enfin, je ne vois en rien une baisse du dynamisme économique. En revanche, une vraie vigilance sur est-ce que l'on va gagner un mois, est-ce qu'on a bien négocié un contrat, est-ce que on a véritablement regardé toutes les solutions pour éviter telle dépense. Oui, je pense qu'on est rentré dans un moment où on fait attention. Mais je trouve l'économie française extrêmement dynamique en termes de d'invention de solutions, d'écosystèmes qui fonctionnent. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet.
Et sur les PGE, est-ce que
non, sur
le remboursement
PGE,
va pas être compliqué? La Banque de France est pour le moment pas très pessimiste. Hein, elle nous dit, effectivement, 3% à peu près
de
sachant que bon, c'est une prévision qui risque d'être.
Non, mais je trouve que le PGE, voyez-vous, est un exemple très intéressant par rapport aux autres aides que l'on a évoquées. Le PGE est une aide qui a été, j'allais dire, négociée par l'État, mais il ne faut pas oublier que l'argent des PGE, c'est de l'argent des banques.
Oui, absolument.
Hein, c'est quand même très important, là aussi. On parle de l'État, mais c'est une très très bonne alliance entre une garantie apportée par l'État et un effort qui a été objectivement consenti par les banques. Et au regard de nos doctrines libérales que nous avons et que nous assumons totalement, c'est assez intéressant de se dire que les entrepreneurs eux-mêmes ont pris leurs propres décisions en disant j'ai besoin de la PGE, je m'endette par rapport à une situation exceptionnelle, je passe ce cap, et finalement pour toutes celles qui auront passé le cap et qui auront tenu l'équilibre grâce au PGE, eh bien c'est quand même très intéressant d'avoir réussi à faire cela, plutôt que de se dire la théorie libérale voudrait que s'il y a un moment difficile, on s'écroule et on ne se relève jamais. Donc finalement c'est intéressant, et après tout, face à des situations comme celles que nous traversons actuellement, avec des périodes d'incertitude, on pourrait peut-être réactiver ce modèle qui consiste à dire j'ai un moment difficile à passer, peut-être qu'avec un emprunt, je peux franchir ce cap et rebondir après. En tous les cas, je crois que ça restera très intéressant, le retour d'expérience que nous aurons eu par rapport à ce modèle-là.
Stéphane Van Uffel, la rentrée financière de nos entreprises?
Moi, en tout cas, dans mon environnement et des chefs d'entreprise que je côtoie, etc., l'inquiétude fondamentale, elle est évidemment sur tous les métiers qui ont des problèmes d'approvisionnement, soit par rapport au coût d'approvisionnement, soit à la capacité d'approvisionnement. Je pense encore aux semi-conducteurs, etc., etc. Donc ça, c'est le vrai sujet. Le bâtiment, par exemple, aussi, avec lequel j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de difficultés. Alors, je ne parle même pas du recrutement, parce que là, on pourrait repartir sur un débat pendant des heures, mais ils ont des problèmes là-dessus, puis ils ont des délais qui se sont énormément allongés, parce que bah, pour avoir des fenêtres PVC de 3,40 sur 2,22, en ce moment, c'est extrêmement compliqué, a fortiori, si vous les voulez d'une certaine couleur plutôt qu'une autre. Donc, tout ça complique énormément les choses, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y a toujours de l'activité, ça veut dire que les carnets de commandes continuent à exister, ça veut dire que ces chefs d'entreprise trouvent des solutions. Et donc, dans ces situations-là, mais c'est parce que je suis un optimiste là, je le dis à chaque fois que je suis sur ce plateau, mon optimisme me dit que c'est dans ces cas-là que le chef d'entreprise a son rôle également, je ne me pétais rien, c'est-à-dire d'aller encore innover, d'aller chercher, et que si tout était simple...
Alors, il y a aussi des moments...
Il y a le fameux effet zombie qu'on avait... est-ce qu'on n'est pas en train d'activer le levier darwinien de l'économie,
c'est-à-dire la survie artificielle de l'entreprise.
Là, c'est à partir de maintenant que le tri va se faire.
Écoutez, il faut probablement être aussi nuancé par rapport à la réalité du tissu entrepreneurial. Il y a des choses extraordinaires qui font que nous sommes des passionnés des entreprises et des entrepreneurs. Il y a aussi des choses moins formidables. Il y a à l'évidence eu un certain nombre d'abus sur les PGE et probablement un certain nombre de choses qui vont apparaître maintenant qu'il faut les rembourser. Il y a aussi des comportements d'entreprise qui ne sont pas des comportements innovants. Et par exemple, le fait de ne pas payer ses fournisseurs parce que les choses se tendent. Et là, j'ai cru comprendre que le médiateur est à l'entreprise et les médiateurs sont mobilisés sur ces sujets de délai de paiement. Donc tout ça est en train de se crisper et on n'est pas dans un monde, rose tous les matins. Mais voilà, c'est
justement, Léonie, je peux finir juste mon propos, c'est vers là que je voulais en venir. C'est qu'en fait, cette problématique de ce qui s'est passé et l'exemple de dire que c'est dans la tempête qu'on voit le bon pilote, ouais. En fait, hein, grosso modo. Hein, si tout va bien, vous avez une mer calme, théoriquement, vous avez passé votre permis bateau, vous savez, vous en débrouillez. À partir du moment où vous êtes en haute mer et que ça commence à piquer, c'est là qu'on voit comment on se débrouille. Et justement, et c'est horrible d'en être là, ce que je disais par mon optimisme naïf, c'est de dire je crois toujours à la capacité des Français, en particulier, qui ont cette capacité par rapport à d'autres cultures, d'être extrêmement créatifs, extrêmement débrouillards. Je vais vous résumer ça comme ça. Pour autant, enfin, maintenant, on commence à arriver au bout d'un système, ce fameux PGE et autres, qui va aussi montrer qu'il y a des gens qui ont survécu et qui n'auraient peut-être pas dû survivre. Et sur ce plateau-là, avec Nicolas Dose, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, j'ai eu la bêtise de dire ça, on m'a traité de cynique pendant 3 semaines sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'en fait, c'était même pour le bien de ces chefs d'entreprise. Moi, j'ai eu des copains, j'ai eu des gens dans les différents cercles entrepreneurs dans lesquels j'ai vécu, où il y a des gens qui ont vécu des situations entrepreneuriales dramatiques et qui n'arrivaient pas à en sortir et qui s'enferment dans un système, ils gagnent plus d'argent, ils endettent leur famille. Et donc, il y a un moment donné, construire et être entrepreneur et avoir une entreprise pérenne, si vous avez un PGE, à partir du moment où vous l'utilisez bien et vous avez eu le temps là de voir d'autres solutions de vous refinancer, vous avez d'autres de potentiellement de céder votre entreprise si vous voyez qu'elle va pas s'en sortir, de se rapprocher d'un autre groupement. Il y a dû y avoir normalement, et là on est en chaîne d'entreprise, on sait de quoi on parle, tout ce qu'il faut pour que normalement ces PGE soient remboursables et qu'il n'y ait plus de report. S'il y a report ou s'il y a demande ou s'il y a crise, c'est que la situation s'est compliquée sur un autre pan. Et vous êtes en plein dans un sujet où vous subissez la crise ukraino-russe, la crise sur l'inflation, vous êtes hausse des taux, etc. Ou alors, c'est que vous avez mal géré, ou en tout cas, vous avez continué à subir, et votre entreprise était déjà plus ou moins zombie. Donc c'est là où je voulais en venir. C'est pas se méprendre sur le fait de dire tout va bien, et on va s'arranger, et on va s'en sortir, mais c'est dans des situations un peu délicates qu'aussi on fait le tri. C'est ce que Léonidas a utilisé comme terme. On va peut-être se faire un peu aussi gronder, parce que c'est sain. Parce que ceux qui vont s'en sortir se renforceront, et puis ceux qui jusque-là passaient à travers les mailles,
ils vont passer à
autre chose. Mais c'est pas grave, ça les empêchera pas de recommencer.
Bien sûr.
Parce qu'il faut 3 fois pour réussir dans la vie.
Mais plus généralement, les PGE qu'il faut rembourser, et puis si on revient sur le nouvel environnement financier qui est le nôtre, celui de taux d'intérêt de la BCE un peu plus élevé, et de taux d'intérêt à long terme qui se creuse un peu plus entre les pays, grosso modo, on revient à une époque où on arrête un peu de défier les lois de la pesanteur.
Non, mais il est temps de défier les lois de la pesanteur.
Et le risque retrouve un prix aujourd'hui.
Il y a quand même, depuis 2 ans, on a vécu un certain nombre d'aléas. Et il est temps quand même de rappeler que la vie normale n'est pas un parcours de santé dans une nature florissante. La vie normale, c'est que par moment il peut y avoir une épidémie. On a eu le Covid. La vie normale, c'est que on n'a pas décrété la paix universelle. Il peut y avoir le déclenchement d'une guerre. Il y a des catastrophes climatiques et toutes nos réserves en tant que pays ont été pour le moment là mobilisés dans des ampleurs telles que il ne faut plus qu'il y ait d'incidents nouveaux. Il faut qu'on reconstitue nos réserves. Je n'entends pas, enfin j'entends le ministre de l'économie et un certain nombre d'acteurs politiques parler de la nécessité de faire attention à notre budget, mais l'idée que l'on a dans toute famille, qui est qu'on a un peu de réserve, que si jamais les choses vont mal, on sait que on en a sous le pied. Ça, la famille collective qui est la nation française devrait le souhaiter et l'attendre de ses gouvernants. Nous sommes à l'os. On est à l'os parce que on a dépensé pour le Covid, on dépense pour l'inflation, on a une situation de guerre. Il faut que l'on reconstitue nos réserves. Et je crois que c'est un message que tout chef d'entreprise a pour lui-même,
mais vous faites,
pour
vous
son
collectif,
pas,
vous allez pas
et le collectif Entreprise France en a besoin.
Vous allez pas augmenter les impôts,
Léonidas. Non, je ne vais pas augmenter les impôts, Emmanuel Chypre, mais je veux que collectivement on arrête de vivre au-dessus de nos moyens pour notre vie quotidienne, pour payer les salaires de nos agents, au regard de la dépense courante. Et cet effort-là, malheureusement, je crains qu'il ne soit pas en haut de nos priorités collectives.
On va être très clair, Stéphane Van Uffel. Enfin, il n'y a pas un pays où ce genre d'effort important réussit à être réalisé sans qu'on y soit finalement contraint.
Quel effort important, Emmanuel ?
La réduction de la dépense publique.
On n'a jamais eu mal sur le sujet.
La prise de responsabilité dans des moments où on se dit que finalement, quand il y a un choc majeur sur les prix de l'essence, c'est à nous d'assumer, etc.
Emmanuel, sans aller tout de suite à l'autre bout de la chaîne, d'imaginer qu'on va tout de suite devoir tous se serrer la ceinture. Enfin oui, tout de suite, c'est à la française. C'est là, c'est blanc ou noir, tout de suite.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 36 solutions non plus.
On était parti sur les taux.
Ouais.
Et on se disait, est-ce que c'est pas peut-être le mauvais moment ? Non, c'est en fait, en gros, l'effet pervers de tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, suite à la grande crise 2008-2009, ces fameux quantitatives indivisibles, ce sont des mécanismes pour fluidifier des situations de blocage, pour que l'argent continue à circuler, je vous le fais simple, pour que l'argent continue à circuler et à financer l'économie, en espérant que tous les acteurs sur la chaîne économique, de la banque centrale jusqu'au particulier, utilisent correctement et intelligemment l'argent. C'est là que ça pêche. C'est qu'à partir de là, on est rentré dans les habitudes d'avoir des taux tellement bas, quasiment inexistants, qu'on finance tout sans avoir plus du tout conscience du coût de la dette.
Parce que le temps et le risque ont perdu toute valeur.
Donc, partez du principe que de faire baisser les taux puis de les faire remonter, ce qu'appelle Christine Lagarde, etc., etc., c'est qu'à un moment donné, aussi, c'est se donner les moyens, si on n'a pas de réserve, au moins, si jamais on a remonté un peu les taux et qu'il arrive un nouvel événement négatif à absorber, on aura peut-être les moyens de rebaisser à ce moment-là de l'étau et on espère réinjecter un coup de boost pour refluidifier l'économie. Le problème, c'est que on est tombé dans un double effet pervers. On perd cette idée-là depuis des années parce qu'on n'est jamais re-rentré dans ce système-là. Et surtout, on n'a plus du tout conscience de l'impact et du coût que pourrait avoir une remontée des taux, et en particulier la France, parce qu'elle est au sein d'une zone où, comme il y a mutualisation d'une dette, on n'a pas conscience que pour nos voisins, nos clients, qui sont aussi nos clients, mais aussi nos fournisseurs, l'impact de ces hausses de taux et qui aurait, à un moment donné, pourrait avoir un impact sur le coût de la dette portée par chaque État, pourrait être très lourd. Et donc, on a perdu cette habitude. Et c'est là où Bruno Le Maire, le fait quand même, Léonidas, moi je trouve.
Parce vous que avez
quand,
raison, non, mais
il faut. Quand il dit qu'il faut arrêter d'ouvrir les vannes sur la TVA et sur tout ça, et qu'il dit qu'il faut quand même, à un moment donné, bloquer, c'est pas par doxa, parce qu'il n'est pas connu pour être un sur-orthodoxe de l'économie. Non. Pour autant, il dit, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, cette situation, Elle peut être très piquante, et le trésor français, qui est très doué, parce qu'on a les meilleurs fonctionnaires, sont au trésor français, c'est-à-dire ceux qui placent la dette française, ils savent très bien...
Les traders de la République.
Ils savent très bien combien de points de taux coûtent en coût pour l'État, et comment la France peut absorber ou pas, et pas se retrouver dans des situations italiennes, voire grecques, etc., dans ce cas-là. Donc c'est très important. Ce qu'on dit, Emmanuel, il faut quand même faire très attention.
Et probablement, ce moment de réajustement des taux est un moment de réveil. et le réveil est urgent.
Et c'est utile au cas où.
C'est utile dans tous les cas. Et réveil à la fois les politiques et de tous les citoyens français.
C'est vrai que c'est merveilleux parce que c'est une belle conclusion et nous n'avons plus aucune seconde. Notre émission est terminée. Donc voilà. Vous êtes des maîtres du temps pour ces émissions. Voilà, vous maîtrisez parfaitement. C'est presque un métier pour vous.
C'est presque un métier.
Voilà, c'est la fin de ces experts. Merci Léonidas Kalogeropoulos. Merci Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain.